Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. À nouveau, Béliveau rencontre avec ce début de rentrée de septembre. Écoutez, dehors, il a fait 34, 35 degrés à certains endroits. Il a fait chaud, pas à peu près. Donc ce soir, vous êtes installé confortablement dans votre divan, au frais, je l'espère pour vous. Et on va passer un très beau moment avec celle que l'on nomme la Lisa Williams du Québec. Rien d'autre, c'est Isabelle Tremblay. Bonsoir, Isabelle.
Bonsoir Jean-Luc, c'est un peu beaucoup d'honneur que je prends avec humilité.
Ouais, parce que c'est une inspiration pour toi, Lisa Williams, c'est...
Oui, beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans le passé. Fait que ça me fait un petit velours.
Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Qui est Isabelle Tremblay?
Ben, Isabelle Tremblay, en fait, moi, je suis une autrice qui a écrit Messagère de l'âme et d'autres livres en lien avec la médiumnité avant cela. J'ai aussi à ma corde, voyons, à mes cordes, je suis animatrice du podcast Médium spirituel où j'essaie de vulgariser beaucoup la médiumnité. C'est ça que je veux faire aussi dans mes livres pour rendre ça accessible le plus possible aux gens, pour pas penser que c'est quelque chose d'inatteignable,
Oui.
mais vraiment pour rendre ça accessible. Et en fait, je suis médium et accompagnatrice, enseignante spirituelle.
Merci Isabelle. Puis pour les personnes qui nous écoutent actuellement, on est en direct sur Facebook, sur des pages Facebook, même la page Facebook de Béliveau Éditeur. On est sur une page LinkedIn, on a du YouTube et demain matin, ça va se retrouver en balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Agathe Radio. On va avoir aussi du Audible, Balado Québec. Et une nouveauté qu'on vous a dévoilée il y a quelques jours, c'est que ce que vous êtes en train d'écouter va se retrouver tous les jeudis soirs dès 21h sur Radio Unicité. Et c'est Isabelle qui est la première de la liste. C'est un peu la marraine de la nouvelle formule de Béliveau Rencontre. Donc, j'ai une superbe marraine à mes côtés pour passer ce premier rendez-vous, nouveau format de Béliveau Rencontre. Puis, merci à Unicité de nous accueillir pour diffuser cette émission sur les autrices et les auteurs de Béliveau Éditeur. On est très chanceux d'être diffusé aussi près d'eux. Ça prouve que la littérature a du succès et aussi les auteurs de Béliveau qui ont beaucoup de succès. On les en remercie. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Isabelle durant toute cette rencontre. Moi, je vais être votre intermédiaire pour lui poser les questions. Il y a déjà Lolita Leblanc qui est là. Entre autres que je vois, mais il y a déjà plein de personnes que je vois qui sont connectées. Donc, faites-moi un petit coucou pour que je puisse vous saluer. Et Lolita va tantôt, c'est une autrice de Béliveau, et ce qu'elle écrit, c'est dans ses rêves. Donc, je suis certain qu'elle va te poser des questions là-dessus, parce que il y a un chapitre dans ton livre qui est justement sur les rêves, et ça va l'intéresser. Isabelle, pour débuter, comment c'est arrivé de se connecter, on va dire, de communiquer avec l'au-delà? Tu dis c'était vraiment, c'est un soir de janvier que c'est arrivé avec ta grand-mère, c'est bien ça?
C'était avec mon grand-père.
Ton
Et
grand-père, excuse-moi.
il n'y a pas de problème. Ça a été vraiment la première connexion consciente que j'ai eue avec lui, avec un défunt, parce que je me suis vraiment lancée là-dedans, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire depuis des années que j'étais médium et que j'acceptais pas du tout cet état de fait-là. Pour moi, c'était impossible, c'était improbable. Je voyais ça comme trop grand, trop beau, et patati patata. Et c'est en janvier 2015 que j'ai accepté d'embrasser cette mission-là, cette capacité-là. Et à partir du moment où je l'ai acceptée, où j'ai eu ma première communication consciente, encore là, j'étais pas trop certaine de moi, là. Mais j'ai eu des confirmations sur ce que j'avais reçu comme information. Après ça, on dirait que ça a tout déboulé et ça m'a emmené vraiment à m'en aller dans cette direction-là, qui est la médiumnité.
Il y a déjà une question,
Donc,
justement, qui est de Lolita Leblanc. Elle dit, vous refusiez d'admettre ce don, était-ce aussi par peur de l'inconnu?
ben, en fait, j'avais pas vraiment peur. En fait, j'y croyais pas parce que j'ai un côté très cartésien qui est encore là présentement aujourd'hui. Ce qui me permet de rester encore les deux pieds sur terre et qui me cause encore quelques blocages à l'occasion. Mais en fait, c'est que j'étais tellement dans mon. On a tellement été élevés à être dans des moules, que moi, j'étais restée dans mon moule, même s'il ne me convenait pas et même si ça ne fonctionnait pas. Et là, c'était totalement l'opposé de ce que j'étais. Et là, je me demandais si j'étais capable de faire ça, si j'avais la capacité de le faire. C'est comme si du jour au lendemain, il nous pousse des ailes dans le dos, puis qu'on se dit, ben, faut tomber, faut sauter en bas du toit pour essayer nos ailes, mais on les a jamais essayées. Donc, c'est peu à peu que je me suis rapprochée, puis que je me suis dit, ben, je vais y aller. Parce que, en fait, c'est en 2010 que j'ai su qu'il y avait quelque chose de mon côté, mais ça a été seulement en 2015 que j'ai accepté d'aller là-dedans parce que ma vie n'allait nulle part. Ça aboutissait pas, comme on dit.
Oui, il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on souhaite communiquer avec les défunts? Est-ce qu'on va rechercher des... Parce qu'on sait comme quoi qu'il y a certaines croyances, surtout dans le sud de la France, qu'on dit que les morts ne meurent pas, mais que l'âme reste parmi nous, qui continue de communiquer avec nous. Moi, je suis d'origine italienne et je crois beaucoup en ça. Mais est-ce que, par exemple, c'est aller chercher des messages, c'est de continuer une discussion qu'on a avec eux? Pourquoi qu'on communique avec les défunts?
Ben, en fait, la communication est beaucoup importante autant pour nous que pour eux. Parce que des fois, il y a des âmes qui ne vont pas trouver leur lumière. Puis quand je parle de lumière, c'est pas le spot lumineux qui s'illumine au-dessus de leur tête. C'est vraiment un état vibratoire. Fait que des fois, ils ont besoin de pardon parce qu'ils restent encore avec dépendant du décès, avec des choses qui ne sont pas réglées. Et parfois, c'est nous, en tant qu'être humain qui fonctionne, qu'on a encore des choses à régler. On a besoin de confirmation de nos proches décédés. On a besoin de savoir qu'ils sont encore là. Et des fois, on veut des conseils, même s'ils ne sont pas là. Puis, j'entendais souvent dire, ben, laissez les morts où ils sont. Tu sais, on n'a pas besoin de les déranger, tout ça, mais la majorité sont très heureux de venir communiquer avec nous, de venir parler. Des fois, c'est juste pour dire qu'ils vont bien, puis de ne pas s'en faire, que de l'autre côté, tout est doux, tout est plus beau. Donc, c'est beaucoup pour ça, c'est régler des situations et tout ça que la communication peut être importante.
Oui. Il y a Lolita qui pose une autre question. Elle dit, avez-vous déjà reçu des messages tellement troublants que vous avez dû prendre du recul avant de les délivrer aux personnes à qui ou les messages s'adressaient?
Oui. C'est arrivé des fois que j'ai eu des messages qui je n'arrivais pas à percevoir réellement le sens ou c'était trop flou, mais en même temps, ça s'est expliqué plus tard par des confirmations ou autres. Mais des fois, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Puis c'est pas toute bonne chose qui est bonne à dire non plus, de faire attention aussi à ce qu'on délivre, parce que des fois, il y a des gens qui vont mal interpréter des choses, qui vont le transmettre et ça peut briser la personne qui est devant nous au lieu de la réparer. Donc, l'importance vraiment d'être diplomate puis de choisir ce qu'on a à dire. Parce que l'âme de l'autre côté, peut-être qu'elle est encore en souffrance, puis ce qu'elle dit est difficile et pas dans l'optique d'une réparation. Donc, oui, c'est arrivé quelques fois où j'ai tourné ma langue 7 fois avant de le dire ou de ne pas le dire du tout aussi.
Et est-ce que ça vient comme briser quelque chose avec le défunt ou c'était mieux pour lui que tu ne dises rien?
Des fois, c'est mieux de ne pas le dire. Tu sais, c'est comme ça arrive beaucoup des fois. Je dirais quand je fais des retours dans les vies antérieures pour certaines personnes, des fois il y a des choses que je vois qui sont pas nécessairement super belles. Hein?
Oui.
Donc dans ce cas-là, je le dis. Moi, je te dirais pas telle chose parce que tu n'as pas besoin des détails, mais je vais te dire ce qui est important en ce moment pour ton travail sur toi. Parce que tu sais, la personne n'avait pas besoin de savoir comment il est décédé si ce n'est pas bénéfique à son évolution personnelle en ce moment. Surtout quand c'est une mort violente ou autre. Donc.
Puis dans le livre Messagère de l'âme, paru chez Béliveau Éditeur, tu dis aussi, tu écris comme quoi qu'il faut communiquer avec les défunts, mais dans le respect.
Oui. Dans le respect, c'est dans le respect de chacun de soi. C'est de ne pas être agressif avec eux, de ne pas commencer à les engueuler. Des fois, j'ai fait ça par contre avec les anges. Quand une situation qui marche pas, là, ça m'est arrivé quelquefois et ça a réglé des problèmes le lendemain. Mais avec les défunts, il faut toujours rester dans la diplomatie, dans le respect, dans l'écoute aussi. Des fois, on va avoir des âmes qui vont venir chez soi. Puis des fois, on se dit, mais pourquoi ils viennent chez nous? Je ne sais même pas, je ne le connais pas. Des fois, c'est notre énergie qui les attire. C'est ce qu'on dégage, ou des fois parce qu'on est porteur d'une mission. Mais c'est toujours d'être dans l'écoute, de poser des questions. Puis même si on n'entend pas, ou qu'on ressent, ou qu'on voit, il y a des choses qu'on va percevoir, puis qu'on va savoir qu'on l'a aidé, cette personne-là, même si on ne sait pas c'est qui. C'est un petit peu abstrait. Mais de toujours garder ce côté-là très respectueux dans la façon de d'amener les choses. Et parce que c'était une personne comme nous avant, puis ça l'est encore, c'est juste son énergie qui est rendue plus haute que la nôtre.
Quand on a préparé cette rencontre, tu m'as dit que tu as entendu à peu près toutes les questions inimaginables qu'on a pu te poser. Et moi, j'en ai une pour toi. Parce qu'il y a des gens qui vont se poser la question, OK, tu communiques avec les morts, mais est-ce que tu dis l'avenir? Et c'est vraiment deux choses séparées, hein. Est-ce que tu peux vraiment, pour le bienfait des personnes qui nous écoutent, un peu démystifier un peu cela.
Ben, en fait, les gens vont souvent dire, ben, je vais voir la voyante. Puis la voyante, des fois, ça va être la médium ou ça va être la clairvoyante.
La
La
tireuse de cartes, comme on dit, là.
voyante.
La tireuse de cartes, comme on dit
Hein?
souvent.
Exactement. Ça peut être la tireuse de cartes ou ça peut être la voyance d'une autre façon. En fait, la médium, comme moi, je suis médium clairvoyante. Ça veut dire que je fais de la communication défunt, beaucoup de communication avec les guides, et je me connecte beaucoup aussi au niveau de la personne qui est devant moi pour voir tout ce qui est là. Et là, j'utilise ma voyance parce que je vais voir les problèmes, les problématiques, les blocages. Des fois, je vais avoir des trucs qui vont arriver, mais c'est pas dans le but de on va faire une séance puis je vais tout te dire ce qui va se passer d'ici un an. Tandis qu'une voyante, elle, c'est vraiment axée sur la voyance, sur l'avenir. Fait que des fois, il y en a qui sont habitués de voir une voyante, qui vont la voir, puis la voyante, elle va t'arriver avec vraiment ce qu'elle voit, avec des choses très précises. Puis des fois, ben, ça n'arrivera pas. Puis là, souvent, on dit, ben, j'irai pas la voir, elle n'était pas bonne, c'est même pas arrivé ce qui est arrivé. Ben, en fait, c'est sûr que c'est pas arrivé dans certains cas parce qu'on a le libre arbitre. Donc, il n'y a rien d'écrit. C'est nous qui écrivons. Tandis que moi, ma job de médium, c'est d'aider les gens à écrire cette histoire-là, justement. Donc, pour en revenir à la base, c'est que la voyante, elle, ça va être vraiment axé sur l'avenir, tandis que la médium va être un canal entre deux personnes.
Okay.
Et ça va être vraiment axé sur le moment présent et sur ce qu'il y a à travailler en ce moment ou sur ce qu'il y a à développer, peu importe.
Et dans ton livre, j'aime beaucoup le ton que tu donnes à ton livre parce que tu parles des faux médiums et ce livre, vraiment, c'est autant pour les hommes que les femmes. Vous pouvez le lire, il va vous intéresser, c'est incroyable. Puis tu as cette liberté de ton que moi, j'aime beaucoup. Puis tu parles des faux médiums, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent tomber dans l'excès et un peu abuser de la personne. T'as dû entendre aussi des histoires comme ça.
C'est la première fois que j'ai entendu cette histoire-là, c'était il y a quelques années. C'était quelqu'un qui avait perdu une personne proche dans un accident de voiture. Et la personne, pour vivre son deuil, puis pour... Parce que dans ce qu'on peut faire avec une médium, c'est aussi d'aller consulter pour aider au deuil. Chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Et cette personne-là, elle est allée voir une médium. Et la médium, probablement ayant ressenti son urgence, sa détresse, ben, en fait, elle a fait la consultation pour parler avec la personne qui était proche et tout ça. Et suite à ça, la personne, elle est partie, mais tout ça. Mais la voyante, la médium, je me suis trompée, la médium, elle a voulu garder le lien avec elle une certaine forme d'emprise. Donc, elle l'appelait ou, tu sais, ils ont comme développé une sorte d'amitié un peu. Et là, elle l'appelait. Puis elle lui disait, ben là, j'ai un message de ton fils, veux-tu l'avoir? Ça va te coûter de temps. Fait que la personne, ben, elle veut avoir le message de son fils. Donc, ça devient ça. Puis ça, c'est vraiment pas éthique. Parce que, en même temps, des fois, tu sais, tu peux puiser dans la détresse de la personne ce qu'elle a présentement, puis pas nécessairement un message et tout ça. Et t'en as que c'est pas nécessairement des faux médiums, mais qui utilisent leurs dons de la mauvaise façon. J'ai eu quelqu'un que c'était la médium lui avait dit, elle était venue me voir, on avait communiqué avec la personne proche d'elle qui était décédée, puis on a parlé, puis à un moment donné, elle pleurait, puis elle disait... J'ai l'impression que... Elle dit, est-ce que c'est vrai qu'il m'en veut? Que cette personne-là m'en veut? Puis là, moi, j'ai dit non. J'ai dit, je ne le ressens pas. Puis dans les messages qu'il t'a transmis, c'était pas comme ça. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que moi, je voulais comprendre parce que c'était pas du tout dans l'optique et tout ça. Et c'est là qu'elle m'avait dit qu'une de ses amies avait été voir une autre médium qui lui avait dit que cette personne-là lui en voulait, qu'il est en colère encore après elle et tout ça. Or, c'était probablement que la personne, le défunt, n'était pas encore dans sa lumière, était encore dans des énergies qui étaient basses. Donc, il aurait fallu comme qu'elle filtre ça ou qu'elle s'en rende compte un peu de cette optique-là.
Il y a Clémence Fortier qui nous dit « Bonsoir ». Lolita, qui est en forme ce soir, comme tous les mercredis, elle dit « Avez-vous déjà communiqué avec des défunts entêtés qui jouaient avec vous ou en refusant de révéler certaines choses? »
Ben, ça arrive des fois qu'on n'est pas connecté directement avec le défunt, puis on est connecté plus avec les guides, donc ça fait des communications qui sont saccadées. Des fois, c'est parce que l'âme n'est pas dans la lumière, puis le guide fait un transmetteur. Et on s'en rend compte assez vite. Mais je dirais que les âmes entêtées, c'est souvent plus les âmes qui sont dans le bas astral ou vraiment bas. Eux, ils vont s'amuser plus à venir déranger parce que eux autres, la lumière, c'est pas leur tasse de thé. Donc, ils vont s'arranger pour nous jouer dans la tête et nous faire un petit peu suer, si je peux dire cette expression-là. Mais non, j'ai pas eu tant de difficultés avec ça, à part une fois où c'était vraiment aller faire un nettoyage d'une maison et l'entité ne voulait, je lui ai juste demandé son nom, puis elle m'a répondu, c'est pas de tes affaires. Et après ça, là, j'ai dit, c'est correct, tu veux pas, fait que là, j'ai travaillé avec mes guides pour la faire au moins sortir de la maison, puis après ça, protéger la maison. Donc, c'est plus dans ce sens-là.
Il y a Lunali qui demande, avez-vous déjà travaillé avec des groupes d'intervenants, exemple un groupe paranormal, en tant que médium, êtes-vous capable de faire passer des âmes dans la lumière?
Je n'ai jamais travaillé avec des groupes d'intervenants parce que ça n'a pas donné. J'ai pas eu. J'ai fait par contre des passages d'âme avec des groupes d'amis. Oui, je suis capable de faire passer les âmes dans la lumière parce que je suis passeur d'âme. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Ça arrive encore de temps en temps, mais il faut pas oublier que les passeurs d'âme, ce n'est pas juste envoyer des âmes vers la lumière, mais c'est aussi aider des âmes qui sont déjà bien incarnées dans des moments de leur vie. Un peu comme ce que je fais avec mes dons de médium ou mes capacités paranormales.
Oui. Puis, on parlait de ton dans ton livre, puis il y a un chapitre qui met un peu les pendules à l'heure parce qu'on entend beaucoup, hein, tu as beaucoup d'ego, tu as de l'ego et tout ça, et tu parles de l'ego. Et tu dis que il est plus aisé de reconnaître l'ego lorsqu'il nous laisse des signes très réels. L'ego n'est pas totalement négatif, mais il faut bien discerner ce qui peut nous aider et ce qui va vous nuire. C'est complètement exact. Et tu dis, du point de vue de l'âme, l'ego est un outil qui va lui permettre d'atteindre un équilibre sur l'humain. Donc, tu remets un peu les pendules à l'heure sur l'ego, que parfois est pris péjoratif, on va dire. Toi, vraiment, tu mets, pour toi, c'était important de parler de l'ego, de dire, OK, il peut nous nuire, mais autant qu'il peut bien nous servir.
Oui, parce que c'est comme n'importe quoi, c'est un équilibre. Quand c'est bien utilisé, un outil, c'est comme ne pas tomber dans l'excès. Souvent, on parle beaucoup, beaucoup d'ego pour les personnes qui sont imbues d'eux-mêmes,
Oui.
qui ont un ego démesuré, et des fois, ben, on tombe dans l'ego spirituel où on communique avec tout le monde, on est super bon, mais finalement, c'est juste. C'est juste qu'on est un petit peu trop gonflé d'estime de soi. Et ce qui est pourtant, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a l'ego pour les gens qui ont trop d'ego puis qui n'arrivent pas à performer parce que l'ego les nuit, les empêche d'avancer. Mais quand notre ego est sain, si je peux dire ça comme ça, ben en fait, là, on va pouvoir avancer plus sainement dans notre cheminement puis avoir un but sans tomber dans l'excès ou sans être dans la retenue. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on arrive à développer du jour au lendemain.
Oui, parce que l'ego, ça peut être un moteur pour faire avancer sans tomber dans l'exagération.
Exactement. Puis des fois, ben, ça peut nous ralentir aussi. Moi,
Oui.
souvent, mon ego, il était de l'autre côté. J'avais de la misère à avancer dans mes projets ou dans ce que je faisais parce que je me sentais pas assez. Or, puis il y en a des fois qui se sentent trop. Mais c'est ça, c'est juste d'atteindre un équilibre qui va faire qu'on est juste assez pour pouvoir faire ce qu'on veut, puis briller surtout.
Il y a Clémence Fortier qui dit, j'ai adoré les livres d'Isabelle.
Merci, Clémence.
Puis, tu parles aussi de clairaudience.
Oui.
Moi, avant, je ne connaissais pas ce terme, très honnête avec toi. Puis là, tu dis que c'est une capacité qui est probablement la plus difficile à atteindre, à maîtriser au moins. Mais une fois qu'elle est bien simulée, c'est une ressource extraordinaire. Est-ce que c'est la clairaudience, c'est quoi? C'est d'entendre?
C'est la capacité d'entendre. C'est quelque chose que certaines personnes vont avoir. Moi, je l'ai seulement à l'occasion. Donc, c'est pour ça qu'au début, tu te poses des questions sur ta santé mentale. Tu vois, ben, en tout cas, si tu poses des questions, tu vas consulter pour t'assurer que c'est correct. En fait, la clairaudience, ça va être vraiment la capacité d'entendre les bruits, les paroles. Il y en a qui vont entendre des voix. Et là, si vous avez un doute sur votre santé mentale, allez consulter un médecin pour vraiment vérifier que ce n'est pas un autre trouble mental. Mais la clairaudience, c'est vraiment ça. C'est souvent, elle va se manifester quand on va être en train de s'endormir ou on va être dans un moment où on est plus relax, où on est plus réceptif. Tu sais, par exemple, des fois, on va être assis ou on va être en train de s'endormir, puis on va avoir l'impression que quelqu'un nous parle. On est en train de dormir, puis on se réveille en sursaut. Puis des fois, c'est ça, c'est parce que c'est notre clairaudience qui s'active.
Okay.
Et là, on va être réceptif à ce qui nous entoure, aux voix, aux bruits. Des fois, on dit, voyons, j'entends le plancher craquer, mais il n'y a personne. Puis c'est pas une vieille maison. Fait que des fois, ça peut être des trucs comme ça à vérifier.
Puis après, tu as la claire connaissance.
Oui.
Qui est aussi. Puis là, tu dis, c'est elle englobe tellement d'éléments tout en étant subtil. Il s'agit de l'intuition.
Bien, la claire connaissance, c'est vraiment le canal. C'est le canal qui s'ouvre. C'est, par exemple, pour donner un exemple concret, je vais être en rencontre avec quelqu'un, puis là, moi, il se manifeste beaucoup quand je fais de l'accompagnement. Quand je fais de l'accompagnement avec des gens, là, je vais parler, je vais donner des trucs, tout ça, puis je vais parler de sujets. Puis je sais pas, moi, je me laisse aller par mon intuition, et souvent, c'est ce que la personne est en train de vivre. Ou je donne un exemple de situation, et c'est exactement ce pourquoi elle est venue me rencontrer. Mais moi, je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu, je l'ai pas, tu sais, j'ai rien ressenti, je l'ai juste dit. Et c'est souvent ça, la clairconnaissance. Ça va se manifester beaucoup aussi à travers les livres que les gens vont écrire avec des enseignements. Ils savent pas, ils vont relire ce qu'ils ont écrit, ils vont faire comme « Mon Dieu, c'est où je suis allée chercher ça? » Mais des fois, c'est juste l'inspiration, c'est la créativité. Et c'est aussi par là qu'on peut aussi avoir une connexion sur le monde, finalement.
Et après, tu as la clairsensibilité. Qui est une autre phase, on va dire?
Ça, c'est. Il y en a beaucoup de gens qui l'ont. Le petit frisson qu'on va ressentir ou la petite. Des fois, on va avoir l'impression qu'il y a quelqu'un derrière nous, puis on se retourne, il n'y a personne.
Ouais.
On va avoir l'impression que quelqu'un met sa main sur notre bras. C'est vraiment des ressentis physiques, puis des fois, ça va être des émotions. Je m'en rappelle avant de développer mes capacités, puis que j'étais encore dans le déni. C'est arrivé que les gens autour de moi parlaient d'un défunt, puis là, je sentais une vague de tristesse m'envahir. Et je savais que c'était pas les personnes qui étaient avec moi, mais que c'était vraiment la personne défunte, puis j'arrivais pas à l'expliquer. C'est comme si on absorbe, un peu comme l'empathie, on absorbe les émotions et les énergies qui nous entourent, et on arrive à les extérioriser, puis à traduire ces émotions-là.
Donc, si je comprends bien, moi, j'ai une personne qui est décédée depuis quelques années, et quand je suis dans un endroit dans la maison, je sais que dans cet endroit-là, parfois, je sens sa main dans mon dos. Est-ce que c'est de la claire sensibilité?
Oui.
OK.
Parce que tu le ressens.
Oui, je le ressens.
Ben oui, c'est exactement ça. C'est vraiment comme tu ressens sa main, c'est vraiment ça, la clairsensibilité.
OK.
Ça peut être aussi un dernier petit truc, c'est des fois on va être en communication avec un défunt, puis on se met à avoir, moi ça m'arrive à l'occasion, je me mets à avoir des flashs blancs dans les yeux et j'arrive plus à voir. Et les premières fois, c'est un peu paniquant. Puis après ça, ben, on se rend compte que là, je l'ai dit à la personne qui est devant moi, j'ai dit, c'est drôle, j'arrête pas d'avoir des flashs dans les yeux, blancs. Puis quand je l'ai dit, on dirait que ça s'enlève, comme pour dire, non, c'était pas à toi. Et là, vers la fin, souvent, les gens attendent vers la fin pour me dire, ben, les flashs blancs, ben, admettons, ma grand-mère s'était fait opérer pour les cataractes, ou elle avait des cataractes, et c'était probablement ça que je voyais, parce qu'elle était dans mon énergie, elle était proche. Fait que c'est un peu comme ça que ça peut se manifester aussi.
Okay. Il y a Mireille Bernier qui dit, d'ailleurs je salue Mireille, que j'ai vu, Mireille, qu'on a vu avec Lolita au salon de Saint-Lambert d'Oloson samedi passé. Donc, c'est super intéressant, j'adore le sujet qu'elle dit. Puis Lolita dit, est-ce que certains rêves peuvent être considérés comme de la claire connaissance?
Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de communiquer consciemment, qui vont le faire à travers les rêves. Des fois, à travers les rêves, on va avoir des informations, on va avoir des réponses, parce que c'est comme si on était plus à l'écoute, on était plus réceptif. Il y en a qui ne se rappelleront pas. Des fois, on va avoir un flash dans la journée, on va faire, voyons, hey, il me semble que je l'ai rêvé, ça. Ou il me semble que ça me dit quelque chose. À travers les rêves, des fois, on va avoir des réponses ou même juste une petite anecdote. Des fois, je fais un rêve juste avant le réveil. Et quand je me réveille, je sais que le rêve, c'est pour la cliente ou le client que je vais avoir avant. Comme si le défunt est déjà arrivé ou des fois, c'est juste les guides, c'est même pas le défunt. Et l'information que j'ai à donner à la personne, donc, des fois, je fais juste raconter mon rêve à ma cliente en me disant que si j'y raconte, parce que je raconte pas mes rêves à tout le monde, là, mais je sais que ça va avoir un lien avec cette personne-là. Et souvent, elle me dit, oh ouais, c'est comme, c'est drôle parce que c'est exactement ça et tout ça, parce qu'ils viennent nous donner des informations, des fois plus précises.
Puis, il y a aussi un sujet dans ton livre qui est l'écriture inspirée. Est-ce que tu as, est-ce que c'est quelque chose, ou l'écriture automatique, est-ce que c'est deux choses complètement différentes, hein? C'est écriture inspirée puis automatique. Est-ce que toi, tu es plus une écriture inspirée ou une écriture automatique? Parce qu'on va revenir plus tard, mais tu écris aussi autre chose.
Oui.
Notre carrière d'autrice aussi, avec d'autres genres que tu écris. Toi, c'est plus alors écriture inspirée.
Oui, je ne fais pas d'écriture automatique. Je n'ai jamais été capable. Mes guides me disent que je suis trop paresseuse ou pas assez patiente. Parce que j'ai essayé, puis non, moi, après 5 minutes, ça ne fonctionne pas. C'est pas intéressant. Ou d'essayer des trucs justement avec des médiums. Moi, genre, pas des médiums, mais des. Ben oui, des médiums, genre pendule ou autre. Mais moi, j'entends les réponses dans ma tête avant que ça s'écrive ou que quoi que ce soit. C'est pour ça que souvent dans mes consultations, ben toujours dans les consultations de canalisation, j'utilise l'écriture pour m'aider à rester focusé sur le message, sur l'information.
Oui.
C'est pas parce que ce n'est pas de l'écriture automatique ni inspirée, c'est vraiment j'entends via ma télépathie les messages, les mots qui viennent un après l'autre. Et à travers ça, ben, j'ai des visions qui viennent. Des fois, au début, je vais entendre des voix, la voix du défunt ou la voix de une voix ou un bruit qui va avoir une résonance. C'est jamais la même chose d'une personne à une autre. C'est comme si on s'adapte à la personne qui est devant nous. En tout cas, de mon côté à moi, là.
Il y a Lucie Lachance qui écrit « Très souvent, je me réveille à la même heure que mon père qui est décédé à 2h50 la nuit. Est-ce que mon papa veut me dire quelque chose? » Merci Isabelle.
Ben, c'est dur de donner une réponse vraiment tangible, mais des fois les heures peuvent signifier peut-être si c'est la même heure que à laquelle il est décédé, ça peut être un signe aussi, juste un petit clin d'œil ou un coucou. Ça dépend aussi de voir qu'est-ce qui résonne à ce moment-là. C'est quoi le sentiment quand on voit cette heure-là, tu sais, de prendre connaissance de à la première chose à laquelle on va penser à ce moment-là, quand ça arrive.
Et là, on arrive dans un sujet que Lolita va adorer, qui est les rêves. Parce qu'elle a expliqué dans beaucoup de lives en tant qu'autrice que ce qu'elle rêvait, c'était son livre. Et quand elle se réveille, elle écrit son chapitre. Et lorsqu'elle s'endort le soir d'après, elle continue son rêve et c'est son chapitre qui continue, c'est son roman. Donc, si elle rêve 48 jours, elle a 48 chapitres. C'est l'importance des rêves. Parce que tu expliques dans le livre comme quoi que chaque rêve a une réelle signification et qu'il est possible de l'analyser pour en connaître sa signification. C'est un rêve, c'est puissant.
Oui, parce que c'est le subconscient, c'est tout ce qu'on ne révèle pas. Ah, désolée, mon chat vient de passer. des fois, ça va être les réponses qu'on attend. Ça va être des comment je pourrais dire ça? Ça va être des trucs qu'on enfouit à l'intérieur. Puis aussi, des fois, on va rêver d'une personne dans notre vie ou une personne qui n'est plus dans notre vie, puis on ne comprend pas pourquoi elle revient toujours dans nos rêves alors qu'on ne l'a pas vue depuis 2-3 ans. Mais des fois, c'est d'essayer de regarder cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle représentait dans notre vie? Qu'est-ce qu'on voit à travers elle? Tu sais, par exemple, tu as une personne que tu n'aimais pas le fait qu'elle était envahissante. Là, je dis n'importe quoi, là. Ben, puis tu rêves tout le temps de cette personne-là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie en ce moment que tu trouves envahissant? Puis c'est pour ça que tu reviens à cette personne-là. Ça, c'est un exemple vraiment général, mais des fois, ça peut être des rêves qui veut nous dire d'aller à tel endroit, qui se veulent des messages de guide parce qu'on n'est pas assez attentif dans le quotidien. Moi, je sais que avant de changer de vie en 2017, pendant presque un an, j'ai rêvé que je retournais dans mon village où j'ai grandi. Puis je comprenais pas, dans ma tête, c'était pas dans les buts, c'était pas dans les projets. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Mais c'était un message qu'on n'arrêtait pas de me dire, que j'ai compris un petit peu tard, parce que on est toujours meilleur pour les autres que pour soi.
Oui.
Mais c'est ça, les rêves, c'est de prendre le temps vraiment de comprendre si c'est un rêve lucide aussi, si c'est quelque chose de vrai, une rencontre d'âme, ça veut dire, ça peut être avec une personne décédée, ça peut être avec une personne qui est bien incarnée aussi, de voir le message qu'il y a là-dedans. Des fois, on va rêver d'un défunt qui est... dans notre rêve, on dirait qu'il est toujours malade, qui n'a pas guéri et qui est troublé, qui est fautif. Ouais. Ben peut-être qu'elle a besoin de lumière parce qu'elle vient de dire, ben moi, je ne suis pas encore de mon côté, je n'ai pas encore élevé, j'ai besoin que tu m'aides. Je suis encore pris ici. Donc, des fois, ça peut être ça, la signification du message. Mais si la personne, elle vient nous voir, puis qu'elle est de bonne humeur, puis que ça va bien, puis qu'elle nous emmène, des fois, ça n'a pas de sens. On se demande, c'est quoi le sens du rêve? Mais en fait, c'est pas ça qui est important, c'est l'attitude et l'émotion de la personne. Parce que ça va nous dire qu'elle est bien actuellement, puis qu'elle vient te voir pour passer un moment avec toi.
Il y a, justement, elle vient d'écrire, elle dit... Lolita a dit « Tout ce que j'écris, je le rêve, c'est aussi limpide que si je l'avais vécu. Je crois que je comprends mieux, je ferai de l'écriture inspirée. Si c'est cela, c'est le fun d'avoir un terme pour ma façon différente d'écrire mes histoires. »
Oui, de s'inspirer, de se connecter à ses guides, puis de se laisser aller. Souvent, c'est la bonne façon de connecter avec en haut.
Et puis, pour toi, Isabelle, au mois d'octobre, tu vas donner des formations. C'est bien ça?
Le 15-22, c'est une formation sur 2 jours sur initiation à la médiumnité où je décortique justement les sujets que j'ai apportés aujourd'hui et où je vais donner des trucs et il va y avoir des exercices avec les gens entre eux pour développer leur capacité puis apprendre. Puis pendant la semaine, ils vont faire les exercices que je vais avoir donnés. Et le dimanche suivant, ben on fait un melting pot de questions, de réponses, de discussions pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, où ça accrochait pour vraiment développer tout ça. Donc,
pour les renseignements, on peut aller sur ton site internet ou ta page Facebook, il y a, je crois, c'est 15 000 abonnés.
Ouais.
C'est Isabelle Tremblay, auteur.
Ouais.
Donc, pouvez vous ajouter, puis vous allez avoir ces dates de formation. Et est-ce que tu as des projets d'écriture actuellement, Un nouveau livre en préparation?
En fait, oui, j'ai déjà le sujet. Là, j'ai commencé, j'ai fait l'introduction. Il me reste à faire moi, je commence toujours par la page des matières et l'introduction. Je crois que l'introduction est faite. Il faudrait que je l'envoie. J'ai fait ça cet été. Mais le sujet, moi, je me laisse vraiment inspirer par les rencontres que je fais. Souvent, je pose la question à mes guides, puis les rencontres que je fais qui se succèdent apportent le sujet que j'ai apporté. Oui, ça va être en lien probablement avec le deuil.
Oui, puis il y a un fait qui est à noter, c'est en plein mois de janvier, si ma mémoire est bonne, janvier 2020, tu as décidé de lancer un podcast. Puis est arrivée la pandémie, puis ça a été un succès incroyable, ce podcast-là. Est-ce que tu peux nous en parler de cette idée de balado?
Ben, en fait, je cherchais un moyen d'apporter ma voix. Puis j'étais moins à l'aise de parler devant une caméra. Quand on est deux personnes, ça va bien et tout ça, il y a de l'interaction, mais toute seule, des fois, j'avais un petit peu de misère. Et j'ai fait de la radio, moi, CJMJ, chez CJMD à Lévis en 2016-2017. Et j'avais aimé l'expérience, puis je me suis dit, ben, je vais m'informer sur qu'est-ce que c'est qu'un podcast et tout ça. Et je trouvais que c'est quelque chose de plus convivial. Et j'ai démarré ça au mois de janvier 2020. Et à chaque semaine, j'ai des écoutes des gens qui m'écrivent aussi, qui m'écoutent sur le sujet de la spiritualité et de la médiumnité. Ça s'appelle médium spirituel. Je ne pouvais pas avoir un meilleur mot, meilleur terme que ça. J'aborde pas juste la médiumnité, j'aborde le développement personnel. Je comme en ce moment, des fois je bascule dans mes mots. Mais je pense que souvent le commentaire que j'ai, c'est que ça me fait tellement du bien de t'écouter parce que je ris avec toi quand tu te trompes. Parce que je fais pas de je rends pas ça parfait, mais le sujet, lui, il est parfait.
Parfait. Puis ta clientèle est plus Québec, Europe, parce que tu me disais qu'il y avait aussi des Européens qui sont
Ben,
parmi les...
j'ai un petit bout de temps, j'avais beaucoup plus d'Européens que de Canadiens, de Québécois. Là, c'est comme mix 50-50, là. Mais j'ai une belle communauté en Europe aussi.
Puis tantôt, j'ai abordé le sujet. Tu écris, tu as d'autres genres littéraires que tu écris. C'est sous quel nom est-ce que tu peux nous
C'est
en parler?
sous le nom de Sarah J. Amiotte. J'ai pris du nom de famille du côté de ma grand-mère maternelle. En fait, j'ai eu la piqûre de l'écriture quand j'étais petite, mais j'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur. Je me rendais jamais au bout de mes écritures. Et mon premier livre, Médium malgré moi, a fait que j'ai terminé mon premier livre et que j'ai appris aussi comment terminer mes projets. Et depuis 2017, ben en fait, j'écris aussi sous un nom de plume des fictions. Et j'ai choisi un nom de plume parce que les gens m'associent un petit peu trop au côté spirituel et médiumnique. Fait que là, ça me permet d'aller dans un côté un petit peu plus fictionnel de fiction, puis de m'amuser avec des personnages dans des mondes et tout ça.
Et on peut retrouver ces livres sur à quel endroit?
Amazon.
Sur Amazon?
Ouais. Au nom de Sarah J. Amiotte, j'ai un cozy crime justement avec une médium qui enquête, une passeuse d'âme qui enquête. Meurtre à Seven, c'est pour les gens qui aiment beaucoup le côté paranormal, mais j'en ai d'autres qui sont plus urban fantasy et plus aussi côté spirituel, développement personnel.
Parfait. Et on va te merci d'avoir pris le temps en ce mercredi d'être avec nous. Je te laisse le mot de la fin pour il est à toi, c'est ton temps à toi, ma chère Isabelle.
Ben moi, je veux juste remercier les gens d'être là, de ma communauté d'être là depuis le début, depuis 2017, même 2015. pour les plus anciens, c'est grâce aux gens qui sont là, qui lisent mes livres, qui m'accompagnent dans mes folies, dans mes activités, que je peux continuer de faire ce que je fais. Donc, merci.
Puis, nous, on va se retrouver le 20 septembre avec une autre Isabelle, Isabelle Lefebvre, avec son livre « C'est quoi ton plan ?» Puis, vous allez voir, il est très intéressant. Et je vous rappelle que le livre d'Isabelle Tremblay, « Messagère de l'âme », allez vous le procurer dans les librairies. S'il n'est pas là, commandez-le. Il est excellent. Puis, j'ai passé un très agréable moment en le lisant. C'est venu me chercher, puis maintenant je comprends mieux certains signes de ma vie. J'ai pu mettre des mots là-dessus. Puis pour ça, Isabelle, je te remercie beaucoup. Nous, on se retrouve le 20 septembre à 20h avec Isabelle Lefebvre. Merci de nous avoir écoutés. Vous étiez très nombreux ce soir, puis vous avez posé beaucoup de questions. Merci de votre participation. On se dit à bientôt. Merci tout le monde. Bye.